En vérité, c'est un cours sur la Parashat Miketz, mais il a été donné sur Parashat Vayigash. Vous avez trouvé que ça respectait le programme. Puis comme on n'a pas fini sur Miketz, sur Vayigash, et que ça parle de Yosef, donc c'est à la ligne. Alors ça commence par un Midrash, sur un passage que tout le monde connaît. On va essayer de bien expliquer d'abord c'est quoi le Diouk du Midrash, parce que c'est un Diouk qui est intéressant. Dans la Parashat Miketz, c'est écrit « Upharo cholem veinu Quand vous voyez un parochrolem, c'est une forme grammaticale qui est très rare dans le Chumash. Ça interroge le Midrash. Alors pourquoi c'est une forme grammaticale qui est rare? Parce qu'il faut savoir que en français, il y a moins ça, mais en anglais, dans le présent, vous avez deux sortes de présents. Vous avez le présent actif, comme I am eating, je suis en train de manger, et I eat, je mange. Et puis en hébreu, en général, dans la Shana Kodesh, tous les verbes d'action, ils sont toujours sous forme de vavaipur, par exemple. Vayachalom, il a rêvé. Vayochal, il a mangé. Vayomer, il a dit. On ne dit jamais Yaakov Ochel. On dit Vayochal, Yaakov. Vaydaber, Moshe. On ne dit pas Moshe Medaber. C'est comme ça qu'on parle. Parce que Moshe Medaber, ce n'est pas un présent classique, ça fait référence à une réalité. Par exemple, le ciel est bleu. C'est pas une action. C'est un présent, c'est un verbe au présent, mais c'est pas une action, c'est un état de fait. Un verbe d'état. Alors le verbe être, c'est un verbe d'état. Mais en réalité, on pourrait dire aussi les gens mangent. C'est aussi un présent. Mais ce n'est pas un présent actif que les gens ils sont en train de manger. C'est les gens mangent, c'est une vérité. On est en train de poser un état de fait et non pas une action faite par quelqu'un. C'est pour ça que c'est très rare qu'en hébreu, dans la Torah, dans la Shana Kodesh, on dit toujours Vayachalom, Vayodaber, Vayochal, etc. Vayeler, Vayakolom. Toujours c'est comme ça. On ne dit pas Kam. Polaire, c'est pas comme ça qu'on parle. D'accord? C'est très simple, vous voyez tout le temps dans les parachutes, c'est très rare qu'on voyait autrement comme ça. Et là, d'un coup, paro cholem. Moi, je me rappelle quand j'ai lu ce passage l'année dernière, il y a quelques années déjà, c'est quoi paro il rêve? Il n'y a que lui qui rêve. Comme si tu m'imposes un état de fait. Et paro rêve. Et les autres gens, ils rêvent pas. Parce qu'on n'est pas en train de dire que paro il a rêvé. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais vous savez, paro, c'est quelqu'un qui rêve. On dirait qu'il y a que lui qui rêve et les autres, ils rêvent pas. Puis je me suis dit, bon, ben, tu prends un peu trop la tête et trop de magdec. Et le Midrash, il fait ce djihouk et il pose cette question. Paro cholem, Midrash Rabba. Écrire la briotte et ma, et quoi, les autres, ils rêvent pas. Je suis étonné. Si vous n'avez pas la différence entre le présent actif et le présent état de fait, vous ne comprenez pas cette question du Midrash. Quoi ce djihouk-là? C'est très simple. Paro cholem, c'est-à-dire, et paro rêve, et pas paro a rêvé. C'est pas une action qui s'est passée. C'est une vérité qu'on est en train d'affirmer. Paro, c'est quelqu'un qui rêve. Et les autres, ils ne rêvent pas. Alors pourquoi les autres, ils rêvent pas? Tout le monde rêve. Et là, chalom shel melech shel kol haolam. Le rêve d'un roi, c'est un rêve spécial. C'est un rêve que les autres ne font pas. Paro, il rêve des rêves de roi. Ça, il n'y a que Paro qui le fait. Non, des rêves de roi. C'est des rêves qui concernent le monde entier. Ce n'est pas des rêves qui concernent la personne. Les rois, quand ils rêvent des choses qui sont universelles. Et c'est quoi le rêve de Paro? Tout le monde le connaît, on va résumer d'abord un petit peu. Vous avez sept vaches, Briot, Tova, Tiafot, qui sortent du fleuve. Et ensuite, du même fleuve, vous avez sept autres vaches qui sortent, décharnées, moches d'aspect, etc. Elles les mangent, et puis elles restent maigres comme à la base. Alors, si on prend ça, si on dit que Paro, son rêve, il touche au monde entier. C'est-à-dire non seulement Paro son rêve touche au monde entier parce que ça va provoquer la famine, etc., dans le monde entier, que tout le monde aura besoin de Paro, ça c'est vrai. Mais si on attaque la chose sur un plan conceptuel, en fait, on peut le présenter comme ça. Paro, qui est le roi, et la Torah, elle nous raconte ça à travers le rêve de Paro, il nous présente une scène où il y a des choses qui sont bonnes qui émergent, puis des choses mauvaises, la même chose, mais en mauvais, qui émergent ensuite. Ce n'est pas d'autres choses. C'est des mêmes vaches, elles sortent. Sept vaches, donc la même chose, sort en rat. Le rat, il consomme le tome. Et le tome, il disparaît. On fait comme s'il n'y a jamais eu. C'est un phénomène très surprenant. Vous avez du tome. Puis vous avez la même chose en rat. Et ce rat-là, il le mange. Et le tome, non seulement il n'est plus là, mais on a l'impression qu'il n'a jamais eu. Il est complètement consumé par le rat. Ça, c'est la façon de présenter les choses sur un plan conceptuel. Quand ça serait le rêve de Paro. Et qui c'est qui intervient qui va réussir à transformer cette destinée-là qui a l'air une fatalité, parce que par où il rêve, c'est-à-dire qu'il fait des rêves qui sont universels, qui représentent une vérité universelle, parce que c'est lui qui rêve et les autres rêvent pas, dans le sens. Lui, il rêve de quelque chose qui concerne tout le monde entier, quelque chose qui correspond à une réalité qui est générale et non pas une réalité privée qui concerne chaque personne. Donc, ça veut dire, ce phénomène-là, il est universel. Il y a du bien, puis il y a du mal, et le mal consomme le bien, et puis il reste plus rien. Et Yosef, il intervient, et lui, il dit à Paro, tu sais ce qu'on va faire? Ben, moi, j'ai une solution. Le Tov, il ne va pas disparaître. Les 7 années de bien ne vont pas disparaître complètement. Ils vont rester. Et il va sauver l'histoire. Vous voyez, la lecture, c'est une autre lecture. Ce n'est pas enlever la lecture en pchat-pachout, c'est une proposition d'une autre lecture.
C'est une autre lecture, ou bien lui, il a fait une lecture, il a fait un constat, puis il dit, ben voilà comment on va essayer d'arranger les choses. C'est pas la
C'est
même
une
chose.
lecture où
C'est-à-dire que c'est
Yosef.
une lecture. La lecture, elle
Enfin,
est... Il y a toutes les choses qu'on va faire.
c'est une lecture qui veut dire que Yosef, il a sauvé le monde sur le plan économique et sur le plan de l'alimentation. Mais aussi, c'est la personne sur cette lecture-là qui vient et qui fait que le tome ne disparaît pas, qui va rester, et que le rat ne va pas réussir à détruire le tome. Donc Yosef, c'est celui qui va protéger le tome face à l'agression du rat. Ça, c'est l'énoncé. D'accord? Et ce n'est pas anodin, parce que le passage dans Tehilim, il dit Shalach lifnem ish le Eved nimkar Yosef. C'est un passage dans Tehilim, dans Tehilim Koufé. Il nous parle de la Géoula, comment elle va venir. Et la première chose qui crée la Géoula, c'est qu'Hachem, il a envoyé Yosef. Yosef, c'est celui qui descend en Égypte, qui est vendu en esclave pour préparer le terrain de la Géoula, de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, elle commence, toujours à cause de fond, on sait qu'il est Makdim Lefor Lemakra. D'abord, il fait précéder toujours la solution au problème. Donc, ça veut dire que Yosef, c'est celui qui est envoyé, qui va préparer, qui va faire germer la Géoula. Ça veut dire que Yosef, et quand est-ce que Yosef vraiment il arrive, il commence à arranger les choses, c'est après le rêve de Paro. Le rêve de Paro et l'intervention de Yosef, c'est le début de la solution qui va apporter la Géoula par rapport à la galoute d'Israël qui va se tuer. Donc nous, on va s'intéresser, c'est quoi de quoi on parle ici? Comment du rat, il peut consommer du temps au point qu'il reste plus de temps? C'est quoi ce phénomène-là? Et quelle force il a, Yosef, et pour pouvoir sauver ça? Et qu'est-ce que ça va nous enseigner à nous par rapport à ça? Quel regard on doit avoir? Alors, on va parler de l'œil. Vous savez, dans la Torah, il y a un truc très surprenant. C'est que, on sait ce que c'est. On parle de Ben Adam Ra, il y a un Rachat, Tzadik. Et puis, des fois, il y a des membres qui sont rares. Il y a Lachon Ra et Aïn Ra. Mais il n'y a pas d'oreille Ra, il n'y a pas de pied Ra. Il y a l'œil et l'oreille. Et nous, l'œil et la langue. On va s'intéresser à l'œil. Il y a Aïn Ra dans la Torah. Il y a Aïn Tov. Tov Aïn ou Yevora. Un œil bon, pas béni, parce qu'il a donné son pain au pays. Altilcha met lechem Ra'in. Ne mange pas le pain de celui qui a un œil mauvais. Ça veut dire, celui qui a un œil bon, eh ben, c'est quelqu'un qui est mâchpia du temps, qui fournit aux autres du bien. Et ça, tu peux profiter. Et attention, il y a un type qui a un œil mauvais, lui surtout ne mange pas de son pain. Même s'il te donne du pain, tu ne manges pas de son pain. Parce que ces gens-là, il ne faut pas profiter d'eux. Même de leur viande, on n'en veut pas. C'est ça. Ra'aïn, quelqu'un qui a un œil mauvais, on ne mange pas de son pain. Voilà, c'est les deux membres. Le rat, il est possible s'appliquer sur un membre en particulier. On va introduire un peu l'idée. En réalité, si on reprend le rêve de Paro, on peut le formuler comme ça. Toute chose qui arrive dans le monde, c'est une hashpa de Tov. Tout ce qu'il met dans le monde, c'est que du Tov. Et l'humain, il a un pouvoir extraordinaire, passe par l'œil, comme on va voir, de tout détruire et de tout rendre mauvais. Et tellement qu'il a rendu mauvais, qu'il consume et qu'il n'y a plus rien. C'est ça le rêve de Paro. Il y a le Tov, et puis la même chose qui arrive en rat, et il ne reste plus rien, parce que l'homme, il l'a mauvais. Et il y a Yosef, lui, c'est Aïn Tova, Ben Porat Yosef, Ben Porat El Aïn. Alors lui, il arrive à sauver ça. Il arrive à pas tomber dans ce piège-là. On va voir petit à petit. Alors, il y a une Mara dans le Tamid, regardez. C'est Alexandre le Grand. On parle de ses conquêtes, c'est Masrekh Tamid. À un moment, il avance. Hazal, il est allé. Donc, c'est les pérégrinations. Alors, le Maharal, il dit, c'est pas évident que c'est une vraie histoire. C'est peut-être dans sa tête tout ça que ça s'est passé. En tout cas, la fin, c'est sûr que c'est comme ça. Mais, comme souvent, d'ailleurs. Hazal, Alexandre. Matal, là où Merkouza découlait Néché. Il est arrivé une ville que de femmes. En Afrique, il était en Afrique. Et il arrive à une ville de femmes. Baël et Mébad, Kramabadé. Voilà, par exemple. Il a voulu faire la guerre avec nous. Elle m'a roulé, lui, on dit. Ikatal, là, si tu nous tues, Yomou, Néché Katal. Il a tué des femmes. Ikatal, les Rougal. Yomou, c'est un roi que des femmes ont battu. Donc, tu gagnes rien. Tu peux rien gagner à faire la guerre avec nous. Amar Lahen, il leur a dit, OK, Aïtoulina, apportez-moi du pain. Aïtoulina, Amad et Dava, ils lui ont apporté un pain d'or, un pain Torah de Dava sur un plateau d'or. Amar Lahen, il leur a dit, Meach le Hitchen, Amad et Dava, est-ce que les gens, ils mangent du pain d'or? Alors, il dit, mais si t'as besoin du pain, l'eau avare, l'arbre, Atrana, Amal et Mechal, des chakrit, va-t-il l'acha, t'avais pas du pain chez toi pour venir manger ici. Non, c'est une partie qu'on ne va pas rester dessus. Kinafik alors quand il est parti, Kata va Babad, il a écrit sur la porte de la ville, Anna Alexandre, c'est Mogdon, moi Alexandre Mogdon, Avitisha, tiens, j'étais bête, Adéatitilimdinatafriki, et là, je suis arrivé au pays de l'Afrique des femmes, et Yalifat et Tsamidnachia, et j'ai appris la chorma des femmes, qui s'est fait complètement mis par terre dans les arguments par des femmes. Après, Alexandre le Grand, c'était un élève d'Aristote. Il chacune veut athée, donc il continue à lancer. Il s'est assis sur une source. Il est arrivé à une certaine source. Donc. Il a mangé du pain. Il a trouvé des grains de sel, des morceaux de sel. Quand il est en train de les regarder, il a senti une odeur. Il a dit à cette source, c'est celle qui mène au Gan Eden. Il a senti une odeur spéciale. Et il s'est dit sûrement que c'est la source qui mène au Gan Eden. Bon, alors il est avancé. À Ika et Amré, Chakal me Anoumaya, Tara Béapé. Il y en a qui disent qu'il a pris un peu d'eau, il l'a mis dans sa bouche. Il l'a écoulé à des matins. Il a tout puisé jusqu'à qu'il est arrivé au Pitra des Gan Eden. Bon, je ne sais pas ce qu'il a fait. En tout cas, il est arrivé à la porte du Gan Eden. Ramakala, il a crié, Patrouli, ouvrez-moi, Baba la porte. Il a dit, moi je suis le roi, vous m'ouvrez la porte. À Moulay, ils lui ont dit, Zéachar Lachem, ça dit qu'il vient en vous. Je ne rentre pas à toi ici. À Marléon, il leur a dit, Anna, Nami Malkana, moi je suis un roi, Mirchef Rachina, je suis Rachou. Vous ne pouvez pas me renvoyer comme ça. À Moulay, donnez-moi quelque chose. Et à Moulay, Goulkolta, ils lui ont donné un œil, globe oculaire. Hein. Ah tiens, tac, les coulées d'avant. Et ne casse pas d'idée, BAD. Et alors, il a fait un truc très surprenant. Il s'est dit, je vais peser cet œil. Non, c'est l'Agmara, elle va dire. Ouais, donc là, c'est un crâne, mais ici, c'est un œil. Voilà. Alors, il s'est dit, je vais peser cet œil. C'est ce truc-là. Pourquoi il s'est dit, je vais peser? Il a pris tout l'or et l'argent, donc il a pris une balance et il a pesé. Et il a mis à côté de l'autre côté un peu. C'était toujours plus long. Il rajoutait, tout ce qu'il rajoutait était toujours plus long. Là, il était toujours plus lourd que tout ce qu'il avait. Il a mis tout ce qui lui appartenait de l'autre côté de la balance, et c'était toujours plus lourd que l'œil. L'œil était toujours plus lourd que tout ce qu'il mettait. Il a mis toute sa fortune, et l'œil, jamais, jamais il a réussi à faire l'œil, un tout petit peu. L'œil ne bougeait pas. À Marléon, les Rabbanan Maya, il leur a dit, oh, c'est quoi ça? Un vrai Gugelta de Ena de Bisra. Ça, c'est le globe oculaire dans l'œil de Bassarvadam, de chair et de sang. De l'Okasava qui est jamais rassasié. Là, ce qu'ils t'ont donné, ils t'ont donné un œil, et ça, c'est jamais rassasié. Tu peux mettre tout ce que tu veux dessus, ça marchera. Bon, c'est une marque, on comprend la portée, c'est une portée d'idée, évidemment. C'est pas forcément qu'il a pesé vraiment, mais ça veut dire, c'est un enseignement qu'on lui apprend. Alors, c'est d'abord de quoi elle parle. En fait, Alexandre le Grand, c'était un roi qui a conquis le monde entier, et dans l'esprit, et dans la conquête. On a vu dans Hanouka, on a déjà parlé de ça beaucoup. Il a voulu conquérir le monde. Et il a voulu aussi, à un moment, il s'est dit, je vais conquérir le Gan Eden. Moi, je veux le monde entier, je veux tout. Je veux l'eau, la basée, je veux la métaphysique et la métaphysique. Je vais être le chef du monde entier, même des univers spirituels. Et donc, il fait une quête. Dans sa tête, il va jusqu'au Gan Eden. Il trouve le Gan Eden dans le sens. Il réclame le droit de maîtriser le Gan Eden et de conquérir cet endroit-là aussi. Et toi, tu ne rentres pas ici. Et on lui donne un œil. Un œil, il ne s'est jamais rassasié. L'œil humain, il ne rassasie jamais. Qu'est-ce qu'on veut lui dire à Alexandre par là? Qu'est-ce qu'on lui donne comme message?
J'ai. Voilà.
Ouais.
Non.
Entendez?
Ouais.
C'est le sens.
Là, ce qu'on voulait lui dire aussi, c'est d'abord ça. Ce qu'on voulait lui dire aussi, c'est que sache que toi, ton domaine, il s'arrête à l'œil. Il s'arrête à l'œil, ton domaine. Et plus que ça, tu n'auras pas. Ça veut dire quoi? Les Grecs, eux, en fait, c'est le Aïnra par définition. Pour ça, on va essayer d'expliquer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un œil? Dans la Torah, ça ne représente pas le Aïnra et le Aïntova. Alors, pourquoi le Aïntova? L'œil, ça représente quoi dans la Torah? L'œil, c'est une source. C'est marqué à propos d'Eliezer quand il parle avec Bethuel et Laval. Va avoir l'œil et l'Aïn vers l'œil, vers la source. Le mot œil et le mot source, c'est le même mot dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'en fait, conceptuellement, quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé le monde et il nous l'a donné. Tout ce qu'on voit, c'est un dévoilement d'une Hashpa, d'une Torah que Kadosh Baruch Hu, il a mis dans le monde. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Il y a énormément de choses qui sont hors de l'invisible. Les infrarouges, les ultraviolets, les ultra. On n'entend pas, on ne voit pas. En réalité, la réalité telle qu'on l'aperçoit, c'est une petite partie de la réalité. Mais c'est ça que
Ah, mais je crois que tu voulais le mettre sur ton.
Il a voulu qu'il voit. D'accord? Et. Donc, ce qui est dévoilé par l'œil. L'œil, c'est la source de ce qu'on perçoit dans le monde. Et donc, en réalité, tout ce qu'on va donner, ça va être perçu par l'œil. L'œil, c'est la source du dévoilement des choses. Parce qu'en réalité, la vraie approche, la vraie perception que j'ai des choses, c'est parce que je les vois. Quelqu'un qui est sous moi, qui est aveugle, il est complètement en dehors de ce monde. Il n'est pas dans ce monde-là. Il est dans ce monde-là, mais il ne perçoit rien. Donc, il vit à l'intérieur de lui-même et il n'a rien de l'extérieur. La chorma, les informations, tout ce qui est exigé dans la vie, ça vient toujours de l'extérieur. Tout ce qu'on voit, c'est une tova que Kadosh Baruch Hu nous a donnée. Et ça passe par l'œil. C'est pour ça que le mot aïn, c'est le mot source, et aussi le mot œil. Et c'est quoi aïn tova et c'est quoi aïn ra? Un bon œil, un bon œil. Ezilher Shemor lo Adam, c'est aïn tova. C'est ça le Icar. Enfin, c'est pas ça l'Icar, mais c'est une des choses. Ezilher Shemor lo Adam, aïn tova. C'est-à-dire qu'en fait, un Aïn Tova, c'est quelqu'un qui dit Vayar ki Tov. Et le Aïn Ra, c'est Vayar ki Ra. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Tov et qu'est-ce que ça veut dire Ra? Alors, Tov, on l'a dit plusieurs fois, et ça veut dire quelque chose qui est fonctionnel par rapport à son but. Ra, c'est quelque chose qui ne peut pas servir à ce qu'il est. Par exemple, il n'est pas fonctionnel. Par exemple, Ra, c'est la chambre Raoua, fragile, cassée. Une échelle cassée s'appelle Soulab Raoua. Un objet qui est fragile s'appelle Raoua dans le droit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je ne peux pas monter dessus sans manquer de me casser la figure sur cette échelle. J'ai un risque énorme de tomber. Donc, il ne faut pas l'utiliser comme il faut. Ça, c'est rare. Tom, ça veut dire que la raison pour laquelle il a été fabriqué, eh ben, il remplit le but pour la raison pour laquelle il a été fabriqué. Si on remonte par rapport à la création elle-même, à Kadosh Baruch Hu, il a créé tout est Tom. C'est-à-dire tout a un but. Mais si moi, je détourne son but et je le prends de la mauvaise manière, je le détourne de son but d'origine, alors je le coupe de sa fonctionnalité, je le coupe de son but, et je lui donne un autre, je le pervertis, alors il deviendra. D'accord? Et c'est un Aïn Tova et un Aïn Ra, ça veut dire quelqu'un que quand il voit les choses, il les relie à leur but véritable, à ce qu'il a voulu. Et Aïn Ra, c'est quelqu'un qui ne les relie pas à ce qu'il a voulu. Et comment ça marche? Pour la source de ça, c'est est-ce que la personne, il pense que la seule réalité qu'il dit, c'est lui. Et donc, tout ce qu'il voit, c'est forcément que c'est dans mon intérêt à moi. Ça existe que parce que moi, si ça existe, c'est forcément pour moi et forcément parce que ça a un but pour moi. Et tout ce qui existe et qui ne m'intéresse pas, je le jette à la poubelle. Ça n'a aucun intérêt. Aïn Tova, c'est quelqu'un qui n'est pas au centre du monde. Il ne se sent pas, lui, le maître du monde. Il sent qu'il y a des choses ici, et chaque chose, il en a pour un but. Il y en a pour lui, il y en a pour l'autre, il y en a pour moi. Mais il se met pas au centre de chaque chose, et il décide que est-ce que ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas, cette chose-là. Qu'en fait, dans la source du dévoilement, c'est-à-dire dans l'œil qui voit les choses, il y a toujours une intentionnalité. Quand je la vois, je me dis tout de suite, est-ce que je la relie à moi et c'est dans mon intérêt? Et dans ce cas-là, si ça ne m'intéresse pas, c'est pas pour moi, donc ça n'existe pas. Ou alors, ça existe en dehors de moi quand même, parce que en réalité, les choses, elles existent avant que moi j'existe, comme il est arrivé sur Terre une fois que tout existait. Donc, et les choses, elles sont là pour quelque chose. C'est pas, moi, je dois essayer de comprendre pourquoi elles sont là, mais ce n'est pas forcément que si ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, alors ça ne doit pas exister. C'est-à-dire, la Gemara, elle dit, Amar Rabbi Abaou Amar Ravuna, dans Baba Metzia, Assur lo le'adam, c'est assur pour un homme de se tenir sur le champ de son prochain, quand tous les germes de blé, elles sont bien et qu'il est beau, qu'il est bien rempli de blé. Qui va lui bousiller son champ? Pourquoi? Parce que l'homme, il a une nature. Quand il voit quelque chose de beau, de bien, des belles vaches, bien belles, il a une nature à se dire, mais attends, mais pourquoi c'est pas moi ça? Au fond, c'est à l'autre. Mais si c'est pas à l'autre, c'est pas à moi, donc moi, ça ne me sert à rien. Donc pourquoi ça existe? Il ne pense pas forcément, il y en a qui sont inarrables vaches. Et donc, ça ne doit pas exister. Et cette force-là, c'est quoi? Le Inara, ça détruit tout, le Inara. La Torah, c'est destructeur, très destructeur, le Inara. Cette force-là, elle vient du fait que l'œil, c'est la source du dévoilement. C'est-à-dire que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné sur Terre, il a dévoilé, ça passe parce que je vois. Si je vois rien, alors il n'y a rien qui me dit. À part moi-même, je suis tout seul. L'œil, c'est lui qui dévoile tout. Et quand ça se dévoile à moi, alors Hachem, il a donné un coup à l'homme de décider est-ce qu'il va le percevoir par rapport à son but, par rapport à la création, pourquoi Hachem a créé les choses, ou alors il va le percevoir que par rapport à lui-même. S'il le perçoit que par rapport à lui-même, alors toute chose qui a un intérêt pour lui, il va le garder. Et toute chose qui n'a pas d'intérêt pour lui, parce que c'est à l'autre, alors ça ne l'intéresse pas, ça ne doit pas exister. Et si ça ne doit pas exister, alors ça va se détruire. Et Hachem, il a donné ce koach à l'homme-là, de décider si les choses, elles peuvent exister ou pas. Parce que c'est dans son œil que se trouve la source du dévoilement, ou c'est aussi dans son œil que se trouve la disparition. C'est Hatsum, comme ça, c'est le quartz du Aïnara. Le Aïnara, ça veut dire qu'en fait, un type, il dit tout ce qu'il voit et que ça ne l'intéresse pas, ben, son œil, il dit ben, cette chose-là, je coupe de sa source. Ça m'intéresse pas. C'est pas là pour moi, c'est pas là. C'est pour ça que dès quelqu'un il a quelque chose de bien de Mishumar, quelqu'un d'autre, que moi, je n'ai pas, et ben, si moi, je ne suis pas mis tout cas complètement dans les midotes, et on ne dit pas à sourd, même un petit bien, on lui dit. Si quelqu'un, il est là et qui regarde, oh, c'est trop beau ce que l'autre il a. Il y a un moment où il va disjoncter. Il y a un moment où il va forcément avoir une pensée, et là, ça peut lui brûler une partie de son champ. Dangereux. Il ne faut pas le faire. Vous allez voir que ça a touché même des grands syndiqués. Ce n'est pas rigolo à côté d'eux. Alors regardez, la Gemara dans Nida, extraordinaire. C'est Gemara, là, je vais vous lire le Baral avec vous. Tania, Abba Shaoul. Couvert Betty. Moi, j'étais dans le Khavakanisha, j'enterrais les gens. Bah, Mahat, et une fois, Niftecha Mehara, il y a une grotte qui s'ouvre sous mes pieds. J'ai un Mati, et je me suis trouvé, et Galgal et non Shilmet, dans un globe oculaire d'un bord, avec l'œil à l'intérieur, à 30 000 jusqu'à moi, Benarine. C'est machin, là, non. Il sentit qu'il tombe. Il tombe, il s'enfonce dans l'œil d'un mort, et il arrive jusqu'à là. Dans le sens, il peut encore respirer, mais pas plus que ça. Tout le corps, il est englouti à l'intérieur. Amrou, ils ont dit, c'est Khazar Tchirachai, je suis ressorti de ça. Il a réussi à s'extraire de ce problème-là. Amrou, ils ont dit, Aïn, Shelaf Shalom, Baïta, c'était l'œil de Shalom. L'œil de Shalom, il faisait la deux fois. Il était beaucoup plus grand qu'un Bitarfen. Aïta, ouais, c'était l'œil de Shalom. Mais Shema, Thomas, peut-être tu vas dire, Abba Shaoul, c'est leur sternin, pour plonger dans l'œil de Abba Shaoul, sternin. De Avshalom. Abba Shaoul, Aror Bedor Abba, c'était le plus grand de sa génération. La Gemara continue, elle dit Rabbi Tarfon, il n'arrivait pas à l'épaule de Rabbi Shaoul. Et 10 personnes comme ça, tous les Amorim, un après l'autre, les Tanaïm et l'Amorim, chacun, il n'arrivait pas à l'épaule de l'autre. Abba Shaoul, c'était le plus grand de toute cette liste. Il y a Rav, il y a plein, là-bas, Rabbi. Abba Shaoul, c'est une personne de stature extraordinaire, on ne parle pas de taille physique ici. On veut dire, tu crois qu'Abba Shaoul, il s'est fait avoir par cette histoire d'œil de Avshalom? Parce qu'il était, c'était un petit être de peu de valeur. Pas du tout, il était plus grand que. C'était le plus grand de sa génération et plus grand que tous les autres Tanaïm qui étaient. Et il est tombé dans l'œil d'œuf, Shalom. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez qu'ici, on ne parle pas de. Il s'est noyé le pauvre, et il n'en pouvait plus, il est ressorti, quoi. Alors le Maral, je vous lis un peu, c'est sympa. Le Maral dit comme ça, sache que ici, on vient t'expliquer la force de l'œil et combien l'action de l'œil, elle est puissante. Car un homme, il doit faire très, très attention à l'œil. Parce que tu verras que on parle de Avshalom. Qu'est-ce qu'il a voulu Avshalom? Il a voulu détruire son père David. C'est l'histoire d'Avshalom. Avshalom, il va, il veut prendre la royauté, prendre les femmes de son père, il veut tout prendre à son père. Et il dit, si c'était sur quelqu'un d'autre que ça avait été dit, alors on aurait dit, bon, c'est un type pas chaud, quoi. Mais Avshalom, c'était le fils de David. Et pourtant, il est tombé dans ce problème-là. Il a voulu tout prendre à son père. Et pourtant, d'où il vient lui? De son père. La source, c'est le père, c'est pas lui. Et il veut tout lui enlever. Donc il veut nier sa racine. Et toi, tu n'existes pas, il n'y a que moi. Donc il veut détruire la raison pour laquelle il existe. C'est ça, vouloir détruire son père. Il veut détruire la raison pour laquelle j'existe. Et donc en fait, la raison pour laquelle moi je veux nier qu'il y a quelque chose qui m'a engendré et qu'on n'est que la cause, la conséquence d'une cause. Moi je veux nier ça. Moi je m'appelle Shami, il est tellement grand, il est tombé dans un truc où il s'est dit, tiens, en fait, moi je suis assez incroyable pour être indépendant et autonome de tout. Et j'ai pas besoin de personne pour exister. Donc mon père, il faut que je le détruise. Donc il a tout voulu lui prendre. C'est ça qui a fait la guerre entre David et Shami. Et il dit, et c'est pourquoi. C'est pour ça qu'on dit que c'est la force de l'œil. Parce qu'il dit comme ça. Il dit parce que c'est par la force de l'œil que Avshalom il était fort. Parce que Aïn Shoura, un œil qui est mauvais, Boléa à col, ça avale tout. Maadir est à col et ça efface tout. Il dit car Ayarot, c'est Avshalom Ivloa. Et c'est pour ça qu'Avshalom il a voulu avaler et enlever l'existence de son père. Et il dit c'est quoi Aïn Ara? Ça montre l'absence. Agamou, Shemide Nara. Vers Eder. Le ra, c'est l'absence, c'est la négation des choses. Comme je vous ai dit, ça veut dire, c'est une chose qu'on dit, elle n'est pas censée exister. Elle est là pour rien. Comme une échelle qui est fragile, elle est cassée, bah, ce n'est pas une échelle, elle ne sert à rien, cette échelle. Bah, autant la jeter. Bah, alors, après, elle est là, l'échelle. Si on ne peut pas monter dessus, elle ne sert à rien. Ah oui, elle ne sert vraiment à rien. Bah, si quelqu'un, tout ce qu'il voit, dit, bah, ça ne sert à rien, ça, il faut l'enlever, cette chose-là, elle n'est pas importante, ça ne sert à rien. Il nie l'utilité d'une chose, ça, c'est le ra. Des fois, c'est bien de nier, mais là, on parle sur la création humaine, sur les choses qui existent vraiment. Et il dit ça, c'est à cause de son œil qui était mauvais. Et ce qu'on te dit, c'est que Abba Shaoul, il était le plus grand de sa génération, il est tombé dans l'œil de Avshalom. Tellement la force de l'œil, elle est mauvaise. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans sa vie où Abba Shaoul, il s'est noyé dans ce problème. Il s'est noyé dans le problème du Hénara. Il s'est senti tellement important qu'il n'arrivait plus à faire exister autre chose que lui. Il niait les autres. Il niait tout ce qui était autour de lui. Absalom, il n'a pas fait de choix. Il est tombé dedans jusqu'à qu'il est rentré au Hénara. Et son père, il a prié pour qu'il sorte du Hénara. Absalom, il est mort. Dans ce problème. Ah bah, oui, il s'en est sorti. Il a réussi à s'extraire de l'œil de Absalom.
Et à un moment,
il est tombé dedans. Dagmara, il est sorti, il est parti vers Khaïl, on dit ça, c'était l'œil d'Avshalom. Il est tombé dans le problème d'Avshalom. Dans le sens, la grandeur d'Avshalom qui l'a amené à ça. Toi aussi, tu es tombé dedans, mais c'était le plus grand de cette génération. Et il dit, c'est pour ça qu'il s'appelait Avshalom. Avshalom, c'est le nom qui correspond bien. Il dit, parce qu'en fait, Avshalom, ça veut dire. Moi, je suis le père de ma shlemut. Je suis le av de la shlemut. C'est moi le père de ma perfection. Il n'y a rien d'autre qui a causé que moi, je suis parfait. Moi, je suis autosuffisant. C'est Avshalom. C'est le père. Je suis moi-même le père de ma shlemut. Et mon père, il m'a rien donné. Donc, mais pour aller jusqu'au bout de cette idée, il faut qu'il détruise son père. S'il ne détruit pas son père, alors ça ne marche pas. Parce que devant toi, il y a la réalité que ton père est là. C'est lui qui t'a fait exister. Et donc, c'est pour ça qu'il a voulu effacer tout ce qu'il y avait avant. D'accord? Ça, c'est un peu le Maral des Maharir. Il explique beaucoup. Donc, on voit clairement cette idée-là. Maral, il la développe ici. Que On va dire le Aïnara, c'est quelqu'un qui nie l'existence des choses. Et pourquoi on parle de la Grèce particulièrement? Alors ça, ça revient bien à ce qu'on avait expliqué dans les semaines d'avant. C'est que les Grecs, comme le rabbin dit le Credo Parashat, il dit les Grecs, c'est ceux qui ont eu la prétention de dire que ce qu'ils ont compris et ce qu'ils ont vu, ça existe, puis ce que je comprends pas et ce que je vois pas, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'ils ont complètement coupé toute réalité qui dépasse leur entendement. Alors que la force, la grandeur de la Torah d'un juif, c'est qu'il a un dévoilement qui le dépasse, et lui, il fait constamment qu'essayer de se connecter à quelque chose qui le dépasse. Et jamais que lui, il est là et dit, moi, ce que je comprends, ça existe, je ne comprends pas ça qui se passe. C'est le contraire du juif. C'est pour ça que Yavan, ça a entraîné la fin de la révélation qui vient de l'extérieur. On arrivait à la Chorma, mais la révélation est terminée. Parce qu'ils ont réussi, ils ont réussi quand même à déconnecter l'homme Israël de ce côté où finalement, il y a une révélation qui vient d'en haut et Hachem continue à parler. Après la grâce, Hachem continue à parler. Il parle plus. Et c'est ça qu'on dit à Alexandre. On lui dit, toi, tu veux rentrer au Gan Eden, on t'envoie un œil. Toi, tout ton kohar de conquérir le monde, il vient de voir de destruction de l'œil. Ça veut dire, toi, vous les Grecs, et toi, c'est lui qui a porté la Grèce à travers le monde. La Grèce, c'est un petit pays. Et lui, il a conquis. Donc, il a amené la Grèce dans le monde entier. Et il a mis tout le monde sous sa bannière. C'est le plus grand roi de ce qui bat quasiment tous les pas. Donc, on lui dit, prends cet œil-là, et tu comprendras que cet œil-là, il n'est jamais rassasié. Parce que il en veut toujours plus pour lui, et toujours plus pour lui, et toujours plus pour lui. Il veut toujours tout ramener à lui. Et c'est impossible. À la fin, ça ne marchera jamais. Il y a toujours quelque chose qui te dépasse dans ce monde-là. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas pour toi. Quelque chose qui est à part toi. Lui, il veut tout pour lui. Il veut même le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est un endroit de Hémet, dans le sens, c'est le monde d'après. Le monde d'après, c'est l'endroit du Hémet. C'est l'endroit qui est. C'est pas toi le centre de cette existence-là. Toi, tu reçois les choses de l'extérieur. C'est pas toi qui produis ça. Donc, prends cet œil-là et reste dans son lambadé, mais surtout, n'essaye pas de toucher à ça. Ça ne veut pas tout ça. C'est pour ça que, si on prend un peu les rêves, après, on va continuer sur des autres exemples. Si on reprend l'histoire des rêves, donc encore une fois, il y a les vaches qui sortent, c'est du monde. Ensuite, il y a un koar chez l'homme qui transforme tout en mauvais, c'est l'œil, l'aïdra, qui détruit tout. Et le temps, il n'existe plus. C'est-à-dire, il se met au centre de tout, il se met au maître de l'existence, et il dit voilà, tout est pour moi. Donc il détruit tout, en fait, parce qu'il détourne tout de son but premier, de pourquoi les choses elles existent. Et Hachem, il a voulu que ça se passe comme ça. Il a voulu que l'homme ait ce pouvoir-là. C'est pour ça que l'Aïdara, ça nous dit tout. Alors maintenant, on va voir à Yosef. Qu'est-ce que c'est Yosef? Alors, il y a le fameux Rashi que tout le monde connaît, le Passouk, il est tombé sur les épaules de son frère et il a pleuré, et Binyamin a pleuré sur les coups de son frère, et lui, il a pleuré sur les coups de son frère. Et Rachid dit, c'est quoi? Le Midrash dit quoi? Il avait plusieurs coups, Binyamin. Non, il y avait deux bêta-minages. Midrash Rishon, Midrash Sheni. Il a pleuré sur les deux bêta-minages. Et Binyamin, il a pleuré sur Mishkan Shiloh. Mishkan Shiloh, c'était le Mishkan qui est dans l'endroit de Yosef, dans le relève de Yosef, qui va être détruit. Mishkan Shiloh, c'était entre, quand ils sont entrés dans Israël, avant le bêta-minage. Il y a eu 369 ans où il a duré le Mishkan Shiloh. C'est là-bas qu'on a porté les corbanotes. Les ragas, juste une petite couchée pour la paracha de la semaine. Je ne vous donne pas, je n'ai pas la réponse. C'est, il y a marqué, le Midrash, c'est Rachid devant. Hein. Il a plusieurs coups, Midrash, parce qu'il marqué, il a pleuré sur les coups de Midrash, mais il y a un seul coup. Donc, en fait, ça fait référence aux deux bêtes à Midrash. Ça s'appelle Tzavar, parce que c'est marqué Tzavarer qui est mis dans la chaîne, Manon est tapillote. Tzavarer qui est mis dans la chaîne, le coup dans le Rachid, c'est le bêtes à Midrash. Mais c'est marqué aussi, Yosef Bachal Tzavara. Ça va pas, ça va rond, ça va rond. Binyamin, Bachal, ça va rond. Binyamin, il a pleuré sur les coups de Yosef. Pourtant, le Midrash, non pas, mais il n'y a pas plusieurs coups chez Yosef. Un seul, ou deux. Il y a deux métamidash. C'est vrai qu'il y a de Savaré. Là, il y a de Savara, mais pas de Savaro, et pourtant, on ne pose pas la question. Alors, moi, je sais plus là, il pose la question, il répond. Mais... Vous voyez, avec la question, c'est plus intéressant. Mais le Midrash ne pose pas cette question. C'est très bizarre. En tout cas, on voit bien que le Mishkan Shiloh était dans le relève de Yosef. Et il y a un truc spécial dans le Mishkan Shiloh qui est très intéressant. C'est quoi le Miouchadou du Mishkan Shiloh? Alors, il y a Gemara dans Zvachim, L'avant-dernier, Maria Kobot, le dernier avec Rachid, on va lire la Gemara. Rabbi Avetimi Bachasa Amar. La Gemara demande pourquoi, Rabbi Nalacha avant, que le Mishkan Shiloh, elle demande jusqu'à où je peux manger les corbanotes. Parce que dans le Beit HaMikdash, je pouvais manger les Kodesh Kodashim dans la Hazara et les Kodesh Kalim dans tout Yerushalayim. Et Mishkan Shiloh, où je peux manger les corbanotes, jusqu'à où je peux les manger. Parce qu'il n'y avait pas de ville. Ça, c'est pour les Kodesh Kodashim. Et donc dans la Hazara. Agmara dit non. Il y a une doucha spécifique à la ville de Shiloh comme Yerushalayim. C'est Kol Haroé, jusqu'à où on voit. Agmara demande, est-ce que c'est celui qui voit de, tout ce qu'on voit à partir du Mishkan Shiloh ou de, jusqu'à l'endroit où on peut voir Mishkan Shiloh. Est-ce que le référentiel, c'est Mishkan Shiloh? Le référentiel, c'est l'extérieur du Mishkan Shiloh et on peut voir Mishkan Shiloh. Ou quelqu'un qui est sur une montagne à 10 km, il voit Mishkan Shiloh, il peut manger là. Non. Quand il est sur Mishkan Shiloh, il se met là-bas et il essaye de voir s'il peut, s'il voit l'endroit où il voudrait le manger là-bas. Et là, c'est être. La Gemara, elle est mise tapée. Donc, Mishkan Shiloh, ça vous fait. Et la Gemara dit pourquoi ? Pourquoi ? D'où ça sort, ça, la femme ? Alors, regardez la Gemara. Rav Avedi, il marquera ça. Il marquera, il n'y a pas ce qui dit comme ça. Vélo, ta'ana, Shiloh. Vélo, ta'ana, Shiloh. Ça veut dire quoi ? Rashi. Rashi en bas. Lo, ta'ana, Shiloh. Ripa, Stif, j'ai cherché. Vélo, matatim, j'ai cherché. Je n'ai pas trouvé dans les psukim le mot ta'ana. Qu'est-ce que ça veut dire? Aval Betsatim, Mizracha Tanachilo, c'est quoi dans Yoshaya? Ta'ana, Lachon, Ta'onia, Vanya, Recha. Chez Mit Anachim, Veroim, soupirait, il voyait, chez Misham, de là-bas, Yuzorim, Achilat Kochim, Chaitam et Makom Marito. Et l'autre Tanachilo, c'est-à-dire que quand Shiloh a été détruit, les gens, ils regrettaient terriblement, ils disaient, regarde, toi, tu te rappelles, on pouvait manger jusqu'à où vous voyez, on pouvait manger les kochim. Il y avait une affection particulière des Achilat Kochim à Shiloh parce qu'on pouvait manger jusqu'à où vous voyez. Et ça a procuré aux gens grand plaisir de manger les Achilat Kochim. Et quand il était détruit, c'était Ta'ana, en sens, un grand détresse comme ça. Oh, là, ça nous manque cette chose-là. Chez Kolaroué, dira Shmakom, chez Kolaroué, Otto, celui qui le voit, mit Aneach, Alav, à l'Achilat Kochim chez Shiloh. Il soupire sur ses achilat kochim. Il dit, regarde, avant, je peux manger là. Rabbi Abaou, Amar, Amarkra, Ben Pourat Yosef, Ben Pourat Ale Aïn. Aïn, Shiloh Rasta Lazout, c'est quoi Ben Pourat Yosef? C'est quoi Ben Pourat Yosef? Le fils de Pourat Yosef, c'était le fils de Pourat, c'est ça. Ben Pourat, c'est Pourat, puis la chante purée à l'arrivée là. Ça veut dire, Ben Pourat Yosef, Yosef, c'est la fructification. Ben Pourat Ale Aïn. C'est l'œil qui se fructifie. Ça veut dire quoi? Aïn, Shiloh Rasta Lazout. Un œil qui n'a pas voulu se nourrir, veiller à note et de profiter, mais d'avoir cherché quelque chose qui n'est pas à lui, c'est-à-dire la femme de Potiphar. Alors, Tiske, elle va mériter Vetochal, elle va manger Kimloéna comme le rempli de ses yeux, comme tous ses yeux. Jusqu'à où elle peut voir, elle pourra manger. C'est-à-dire quoi? Rachid Ibn pourra chausser, regarder en bas. La chône Piriav Rivia, bonsoir, Rachid. Makom Achilat Kochim, l'endroit de la nourriture, de la consommation des corbanotes. Il travaille, il s'est développé l'eau pour lui, à l'idée à Aïd grâce à l'œil. Vous vous rendez compte, ça veut dire, c'est-à-dire que Yosef, qui a été, que son œil n'a pas voulu se nourrir de quelque chose qui n'est pas à lui, c'est le défi de Maïd Tova, c'est-à-dire qu'il ne va pas consommer quelque chose qui n'est pas pour lui. Chaque chose, il le laisse à sa place. Son œil, il ne va pas s'introduire dans quelque chose qui lui appartient. C'est l'œil d'Ara. Et d'Ara, c'est que je vois quelque chose qui est à quelqu'un, c'est beau, et d'un coup, je me dis, tiens, pourquoi c'est à lui? Dès que quelqu'un pense à se terminer, il a bousillé le truc de l'autre. Yosef, il n'a pas voulu toucher à ce qui lui appartient pas. Aïn, chez l'aura de Salazou, il va devoir se chelou. Alors lui, son âme, elle va se fructifier. Elle va devenir une source de bracha. Donc, puisque, c'est quoi le pshat? C'est ce qu'on a dit au début. Puisque Kadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme le réel, le métier ou le monde. Et ce monde-là, il se dévoile par l'œil. Et l'œil, c'est la source du dévoilement. Ça passe, tout le dévoilement que Kadosh Baruch Hu a mis sur terre, ça passe par l'œil qui dévoile les choses que Hachem a voulu nous dévoiler. Si l'œil, il dévoile les choses de la bonne manière en laissant les choses à leur place, alors là, il va apporter la bracha et au contraire, Yosef, c'était l'endroit où l'Achilat Kochim se propageait jusqu'à l'œil où elle voyait. Ça veut dire, il a été zoché que son œil amène la hachpa et la bracha. Alors que Imra, Alexandre, par exemple, il a conquis peut-être le monde entier, mais il a conquis le monde entier, il a détruit le monde entier. Ça veut dire, et lui, au contraire, son doigt, il va provoquer de la clala, comme Avshalom. Il a dit dans son Shalom, Alexandre, mais quand même. Donc, c'est pour ça que c'est Yosef qui va venir et qui va intervenir dans le rêve de Paro. Le rêve de Paro, c'est qu'il y a des vaches du temps. Mais l'homme, il a tendance à prendre tout le temps qu'on lui montre et à se l'approprier et à rendre Torah. Yosef, c'est Aïm Torah, c'est l'œil qui est bon, qui ne s'approprie pas ce qui ne lui appartient pas. Et donc, quand Paro il lui dit le Tov, le Ra, il n'y a plus rien, il dit non, non, il y aura quelque chose, t'inquiète pas. Yosef, il va être Metaken, il va réparer ça, et il va réussir à faire les choses de manière équilibrée. Chacun, finalement, il va trouver son. Et c'est ça la force de Yosef, c'est Aïm Torah. Aïm Torah. Voilà, ça c'est bon, je